Bienvenidos a este informativo de Radio France
International. Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par la rédaction en langues étrangères de RFI. Ce soir, c'est à vous, Tran Tran de la rédaction vietnamienne.
Ciao.
Pour la rédaction chinoise, Judith Cheng.
Tadiahao.
Et Issouf Zerbo de la rédaction en Mandankan.
Anula.
Bonsoir à tous. Ce qui fait la une de l'actualité, c'est cette spectaculaire opération militaire de l'Ukraine contre l'aviation russe. Cela à des milliers de kilomètres de la zone de combat. Avec des dizaines de drones, des avions ont été détruits en nombre. Il y a des bombardiers transformés en tas de ferraille. Un affront pour Moscou, une réussite pour Kiev. Toile d'araignée, qui est le nom de cette opération, a eu comme conséquence la nuit dernière de nouveaux bombardements massifs en riposte. 9 régions d'Ukraine visées, notamment la capitale, selon l'armée de l'air ukrainienne. Le pays a été attaqué par 407 drones et 45 missiles. Tran Tran, vous tirez quels enseignements de l'opération ukrainienne lancée en territoire russe ?
Nous ne revenons pas sur l'aspect spectaculaire ou surprise de cette opération, mais sur ses implications dans la stratégie de défense, plus particulièrement en défense aérienne. Pour Michael Shunkin du think tank britannique The Royal United Service Institute, l'Ukraine vient de faire quelque chose qui devrait terrifier les armées du monde entier. Effectivement, parce que là, il s'agit de frapper à faible coût et en profondeur, en utilisant les moyens contre lesquels peu, voire aucune armée n'est préparée à agir. Un industriel français de l'armement, sous couvert d'anonymat, souligne que cela va donner des idées à plein de gens. Et pour lui, donc en fait, les drones, ces outils nouveaux, obligent à repenser complètement les systèmes de défense en la matière dont on les produit, la doctrine de défense aussi. Et cela ouvre des champs qu'on ne devrait même pas qu'on n'avait même pas imaginé auparavant. Quant à Stéphane Audran, un expert français en sécurité et défense, lui, il met en exergue l'immensité du territoire russe, qui d'habitude est un avantage, puisqu'on peut planquer donc, les bombardiers un peu n'importe où. Mais là, c'est tout autre chose, car la Russie doit surveiller des milliers de kilomètres carrés, et c'est simplement impossible.
Judith, comme beaucoup de gens dans le monde, les internautes chinois ont été impressionnés par la performance des frappes ukrainiennes.
Tout à fait. Pour eux, les Ukrainiens ont réalisé une démonstration saisissante du faible contre le fort, en frappant loin derrière les lignes de front, au cœur du territoire russe, et portant en plus atteinte à certains vecteurs nucléaires. L'enthousiasme se cristallise autour du rôle des drones, ces armes peu coûteuses, qui ont réussi à endommager des appareils sophistiqués d'une valeur considérable et capables de frappes massives.
Issouf, cette opération toile d'araignée rappelle des événements survenus au Sahel, notamment ce qui s'est passé au nord du Mali il y a presque un an.
Philippe, on se rappelle effectivement les rebelles du nord du Mali, le Front de Libération de l'Azawad, ont infligé une lourde perte aux soldats de l'armée et ses supplétifs russes qui avaient tenté la reconquête de Tinzawaten, dernière bastion des rebelles près de la frontière algérienne. Bilan, plus d'une centaine de morts et des captifs. Selon les informations du journal Le Monde, les indépendantistes à dominante Touareg ont utilisé des drones obtenus grâce à l'appui discret mais déterminant de Kiev. De plus en plus, les rebelles et des groupes terroristes opérant au Sahel se servent des drones civils pour larguer des charges explosives ou pour espionner les militaires dans leurs camps et dans leurs opérations.
Sur le plan économique plus largement, il souffre. Sur le plan économique également, cette guerre en Ukraine a des répercussions en Afrique.
Tout à fait. La guerre a perturbé, voire bloqué l'approvisionnement des pays africains en céréales et en fertilisants. Après le début du conflit, le manque de céréales a fait grimper les prix à plus de 10% sur les sacs de farine de blé dans certains pays. L'impact sur les prix ou le poids de la baguette du pain s'est vite fait sentir. Il a engendré des grognes chez les meuniers, boulangers et pâtissiers ainsi que chez les consommateurs de pain. Plusieurs pays ont pris des mesures pour y faire face. Mais les achats de farine de blé en Afrique subsaharienne ont baissé de 40% sur les 5 dernières années selon l'agence Ecofin. Les sanctions infligées également à la Russie exportatrice de céréales et principale fournisseuse d'engrais en Afrique, a aussi touché de plein fouet le secteur de l'agriculture. En 2022, le prix de l'engrais avait presque doublé. On pourrait le dire, le conflit russo-ukrainien est loin, mais si proche du fait de ses répercussions sur l'Afrique.
Revenons à ces frappes de drones, plus particulièrement ukrainiens. Judith, quels enseignements tirent les militaires chinois de cette opération ?
Oui, certains y voient la nécessité urgente de renforcer la protection des bases aériennes. D'autres y voient un atout pour l'armée chinoise dans cette nouvelle configuration du conflit où les drones occupent une place centrale. Hu Xistin, qui est un influent éditorialiste du quotidien nationaliste Global Times, met ainsi en avant la position dominante de la Chine dans la fabrication des drones. Selon lui, ces avantages technologiques seraient décisifs en cas de conflit. Alors, cette fascination pour la puissance militaire chinoise rappelle les réactions qui avaient suivi les récents combats aériens indo-pakistanais. De nombreux internautes chinois y célébraient déjà la performance des armes chinoises vendues au Pakistan face aux équipements occidentaux, notamment français, acquis par l'Inde.
Et puis il y a ces autres inquiétudes chez les Chinois.
Oui, l'attention se porte particulièrement sur des frappes ukrainiennes contre une base militaire de la région d'Irkoutsk, où plusieurs appareils aériens ont pris feu. Cette région sibérienne revêt une importance stratégique pour Pékin. Elle se situe sur le tracé du corridor économique que la Chine développe, reliant Russie, Mongolie et la Chine. De nombreux projets de coopération économique et commerciale y ont été déployés. Donc certains investisseurs chinois pourraient avoir des soucis à se faire.
Et de ces frappes, il en est également question dans les dessous de l'Infox sur Radio France Internationale.
20 часов в Париже,
20
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Après la dernière audience tenue il y a de cela 7 mois, cette semaine au Mali a repris le procès autour de l'achat de l'avion présidentiel et achat également d'équipements militaires. Une dizaine de hauts cadres civils et de hauts gradés militaires sont poursuivis pour corruption, atteinte aux biens publics, favoritisme, faux usage de faux, complicité d'atteinte aux biens publics. Alors Issouf Zerbo de la rédaction en Mandankan, cette affaire remonte à 2014, c'était sous le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta et cela porte sur un montant de quelques 130 milliards de francs CFA et sont enfin abordés les questions de fond.
Oui, dès l'ouverture de l'audience le mardi, le procureur a énuméré les charges. La première porte sur un contrat de plus de 21 milliards de francs CFA destiné à l'acquisition d'un avion de commandement en 2013 avec plusieurs irrégularités constatées. La seconde charge concerne la fourniture d'équipements au profit des forces armées maliennes dans le cadre d'un marché de 69 milliards de francs CFA passé en 2013 également avec la société Geostar. Là encore, le ministère public dénonce notamment un écart de près de 39 milliards de francs CFA entre les matériels commandés et celui livré.
Alors, il y a une dizaine de personnes qui sont poursuivies dans cette affaire. Que disent les accusés pour leur défense ?
Nous avons dit au tribunal... Excusez-moi.
Il souffle. Peut-être oui. Parlez-nous de ce qu'il dit Mme Boaré-Fili Sissoko, qui comparait. Elle est accusée d'atteinte aux biens publics, de surfacturation, de faux et d'usage de faux.
Exactement. À plus de 70 ans, elle est arrivée dans une ambulance à la cour d'appel de Bamako avec l'assistance d'un médecin et en s'appuyant sur un dispositif médical. Pour cette raison d'ailleurs, l'accusée a demandé des aménagements d'audience, pause régulière, prise des médicaments, entre autres. La cour a accédé à cette demande. La semaine dernière, Mme Boaré était arrivée au tribunal sur une civière avant qu'elle ne renvoie le jugement. Mais toujours dans la liberté, la demande de la liberté provisoire accordée n'a pas été accordée à la dame. Son avocat s'était indigné de cette situation. Nous avons Maître Djanguine Tunkara.
Que dit l'avocat de Mme Boaré, Fili Sissoko ?
Nous avons dit au tribunal que Mme Boaré Fili Sissoko ne peut pas être jugée car elle est malade. Nous n'avons pas peur de la justice. Nous voulons que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Il dit ne pas comprendre que sa cliente ne bénéficie toujours pas de la liberté provisoire. pour se soigner convenablement et ensuite revenir faire face à la justice.
Oui, et elle dit qu'à son niveau, les mécanismes de contrôle ont été respectés en aval et que le protocole d'accord lui est parvenu signé concernant cet achat d'avion présidentiel. En octobre 2022, une liberté provisoire contre une caution de 500 millions de francs CFA lui avait été accordée.
Oui, l'ex-ministre a trouvé le montant excessif et a estimé que son paiement était un signe de sa culpabilité. En novembre 2024, une nouvelle demande de libération a encore été rejetée, cette fois en violation de l'article 335 du Code pénal, de l'article 135 du Code pénal du Mali qui stipule, je cite, « En aucun cas, la détention provisoire de l'inculpé en matière criminelle ne peut excéder 3 ans ». Fin de citation. L'avocat et les proches de Félix Sissoko craignent le scénario de Soumaïlou Boubaï Maïga. Dans le cadre de cette même affaire, l'ancien Premier ministre est mort en détention le 21 mars 2022. Les autorités judiciaires avaient également rejeté toutes les demandes d'évacuation sanitaire. Voilà.
Outre cette ministre de l'économie au moment des faits, qui sont les autres accusés, Issou?
Ils sont 10. Parmi eux, l'ancien Premier ministre Soumaïlou Boubaï Maïga, ministre de la Défense au moment des faits. Il est accusé d'avoir conclu 2 contrats, l'un pour l'acquisition de l'avion présidentiel et l'autre pour la fourniture d'équipements militaires attribués à la société Geostar pour un montant de 69 milliards de francs CFA. Ces contrats ont été conclus sans respecter les procédures légales de passation des marchés publics, notamment sans appel d'offres ni de vérification préalable des besoins. Moustapha Ben Barka, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, est aussi cité.
Il y a également dans le box des accusés 2 autres proches collaborateurs d'Ibeka.
En effet, son directeur de cabinet, Mamadou Camara, et Sidi Mohamed Kanyasi, conseiller spécial d'Ibeka, des officiers, le général Moustapha Drabo, ex-directeur des hydrocarbures, des matériels et des transports des armées, et Noun Diba Tao, ex-directeur des commissariats des armées. Des hommes d'affaires, enfin, Marc Gafajoli, Soumaïla Diaby, ainsi que Noun Kouma et Amadou Kouma de la société Geostar.
Alors, tous ces gens-là se voient reprocher des faits qui remontent à plus de 10 ans. Pourquoi autant de temps pour que la justice malienne se prononce aujourd'hui?
On dira que le temps de la justice n'est pas celui des hommes ou des médias. Pour mieux comprendre, nous allons remonter le temps. En 2014, le bureau du vérificateur général alerte des irrégularités dans l'acquisition d'un aéronef du président et la fourniture du matériel après la saisine du premier ministre d'alors Moussa Mara. Le procureur du pôle économique et financier de Bamako de l'époque n'a pas donné suite en évoquant les secrets défense, mais en 2019, sous le même régime d'Ibeka, le parquet a ouvert des enquêtes qui révéleront un détournement de 38 milliards de francs CFA. Le début du procès lui-même prévu pour le 17 septembre 2024 a finalement été reporté au 24 du mois à la suite de l'attaque terroriste contre l'école de gendarmerie de l'aéroport.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette affaire avec vous. Issouf Zerbo de la rédaction en monde en camp de RFI. Avec la rédaction vietnamienne, revenons maintenant sur la visite officielle effectuée par le président français à Hanoï. Emmanuel Macron qui a annoncé 9 milliards d'euros de contrats allant de la défense à l'aéronautique, à l'industrie pharmaceutique, sans oublier le secteur de l'énergie et les transports urbains. Dites-nous en plus, Tran à Tran, sur le contexte dans lequel s'est inscrite cette visite.
Nous savons que le Vietnam a été une colonie française jusqu'en 1954, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la guerre d'Indochine. Et à la veille de l'arrivée du président français, la presse vietnamienne a souligné combien cette visite d'État était importante, ouvrant un nouveau chapitre dans les relations bilatérales. Je rappelle que la France, pour l'instant, est le seul pays de l'Union européenne à avoir signé un partenariat stratégique global avec Hanoï, c'est-à-dire le plus haut niveau dans les relations diplomatiques.
9 milliards d'euros d'accords ont donc été signés entre le Vietnam et la France lors de cette visite, dont 14 domaines, dans 14 domaines, pour mettre en valeur le savoir-faire français, Trana.
Oui, cela va de la défense au transport maritime, à la coopération en énergie nucléaire et surtout dans les transports publics. Un projet dont la France a été fortement impliquée. Je vous propose d'écouter les témoignages des utilisateurs de Hanoï que notre envoyé spécial Thu Hang Le a rencontré lors de sa mission le 26 mai dernier.
Tôi là người đi làm ở hai đầu tàu, từ ga cầu Diễn cho đến ga cuối cùng là ga cầu Giấy. Nên là sử dụng chuyến tàu là thường xuyên.
Que dit ces gens?
Alors, il s'agit de Nguyễn Đức Dương. Il fait partie des 18 000 ou des 19 000 passagers qui empruntent la ligne 3 du métro de Hanoï chaque jour de la semaine. Ils nous expliquent qu'avec le métro, ils gagnent de 15 à 20 minutes de plus. Utiliser le train présente de nombreux avantages. Pas d'embouteillage, pas de retard et pas de vol de deux roues. La pression liée à la foule, au retard et au vol manqué est considérablement réduite. Quant à un autre témoignage, il s'agit de Mai Kang, une jeune étudiante en anglais à l'université de langue étrangère à l'Université nationale de Hanoï. Elle nous évoque un autre avantage et non les moindres. Elle nous explique que voyager en train est très bénéfique pour elle car le train l'amène directement à la porte de son école sans avoir à passer par les routes très encombrées et poussiéreuses. Donc elle trouve les infrastructures sont de qualité et le train est très rapide et très pratique.
Plus largement, le Vietnam est confronté au défi qui consiste à accélérer le rythme de sa croissance, mais en même temps de décarboner son économie.
Oui, et c'est dans cette optique que la modernisation des infrastructures ferroviaires est devenue l'une des premières priorités du gouvernement vietnamien, en particulier avec le projet de ligne de grande vitesse Hanoï-Ho Chi Minh-Ville. L'inauguration officielle de la partie aérienne de la ligne du métro numéro 3 à Hanoï, dont nous venions d'évoquer, en novembre dernier, a permis à mettre en valeur la réussite technique du projet et la contribution décisive de la France.
Tran à Tran de la rédaction vietnamienne de Radio France Internationale. Venons-en au Festival du cinéma chinois, au féminin, qui se tenait ces derniers jours à Paris. Il s'est déroulé à la Cinémathèque française. Judith Cheng, vous y êtes allée pour RFI.
Oui, durant 4 jours, 11 films ont été projetés, témoignant du regard de 4 générations de réalisatrices chinoises sur la condition des femmes dans une société encore marquée par le patriarcat. Le public était apparemment au rendez-vous. La séance d'ouverture a fait salle comble à la Henri Langlois, qui compte plus de 400 places.
Dites-nous en plus sur le film d'ouverture.
On peut traduire déjà le titre du film par « Femme, démon, humain ». Je trouve que ces 3 mots résument déjà les conditions sociales des femmes chinoises d'une certaine époque qui n'est pas si lointaine. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a grandi au sein d'un groupe de théâtre opéra en tournée de village en village. Sur scène, elle est obligée de jouer des rôles masculins pour se protéger.
Dans les opéras chinois dont vous parlez, est-ce que c'est courant que les hommes jouent des rôles féminins ?
Oui, ce sont souvent des hommes, dans le passé, ce sont des hommes qui jouent des rôles féminins, mais depuis l'arrivée au pouvoir du Parti communiste chinois, le régime prône officiellement l'émancipation féminine et la rupture avec les traditions patriarcales. Pourtant, le triomphe de cette artiste, qui peut s'épanouir qu'en adoptant une identité masculine, révèle toute l'ironie de la situation, c'est-à-dire un discours de l'émancipation face à la persistance des structures patriarcales. Bien que le film date de 1987, il offre, même aujourd'hui, un miroir saisissant de la condition féminine en Chine contemporaine. Nous écoutons Madame Dai Jinghua, professeure à l'Université de Pékin, spécialiste du cinéma chinois au féminin.
Ce film a très bien
Et quelle est donc son analyse ?
Alors, la professeure Dai développe son analyse autour de 2 axes principaux. Le premier point, malgré son talent et sa célébrité, l'héroïne du film ne peut concevoir son bonheur qu'à travers la figure d'un homme protecteur, père ou grand frère idéalisé. Contrainte au début de sa carrière de jouer des rôles masculins par nécessité, elle choisit ensuite d'incarner Zhong Hui, cette divinité légendaire chinoise qui est un homme fort et juste qui chasse les démons pour secourir les faibles. C'est uniquement dans ce travestissement qu'elle parvient à rencontrer l'homme idéal, qui n'est autre finalement qu'elle-même. Second point, ce travestissement révèle, selon la professeure Dai, une réalité persistante. Aujourd'hui encore, les femmes chinoises doivent adopter des code masculin pour réussir et obtenir une reconnaissance sociale.
Et c'est donc du cinéma chinois et c'était à voir à Paris. Judith Cheng de la rédaction chinoise de RFI, c'était Accent du Monde, à retrouver bien évidemment sur l'appli et sur le site internet de Radio France Internationale.